L'histoire est comme un clin d'œil furtif aux conséquences parfois inattendues. Clin d'œil à l'histoire,
une émission présentée par Raphaël
et Ben le samedi matin à 11h
sur Radio Bartas 107 FM. Cinéma et politique en URSS, deuxième partie, 1928-1953. Nous avions vu la dernière fois comment le cinéma était apparu en Russie et comment celui-ci avait grandi au début du XXe siècle jusqu'à atteindre un premier âge d'or dans les années 20. Bénéficiant du dynamisme de premières maisons de production, du brio de grands réalisateurs s'appuyant sur des succès internationaux, ce cinéma pionnier multiplie les films et les expérimentations qui ont donné des chefs-d'œuvre tels que les films de Sergei Eisenstein. On pense notamment ici à l'emblématique cuirassé Potemkin, sorti en 1925 et dont nous avons tous déjà vu au moins une fois la scène iconique des escaliers d'Odessa, tant de fois inspirante pour de nombreux réalisateurs. Citons par exemple ici Aux Incorruptibles de Brian De Palma en 1987 ou, de façon beaucoup plus décalée, Y a-t-il un flic pour sauver Hollywood avec Leslie Nielsen en 1994.
Mais cette parenthèse enchantée des années 1920 se heurte rapidement au durcissement du régime soviétique qui prend un virage totalitariste à l'aube des années 1930. Joseph Staline, qui a pris le soin d'éliminer tous ses rivaux à la tête du Parti communiste, devient le seul maître à bord à partir de 1928. Peu à peu, le cinéma est contraint de rentrer dans les lignes étriquées dessinées par les services des propagandes. Nous allons voir aujourd'hui comment le totalitarisme stalinien a fait main basse sur le cinéma en URSS entre 1928 et 1953, date de la mort du Vojd, c'est-à-dire du guide tel qu'aimait se faire surnommer Staline. Le guide est après tout une désignation classique dans tous les régimes totalitaires de l'époque. Nous connaissons ainsi le Führer en Allemagne, le Duce en Italie ou encore le Caudillo en Espagne. Mais attention, il ne faudrait pas confondre, assimiler à l'identique la notion de totalitarisme. Chacun a bien évidemment ses propres nuances, mais aussi ses limites.
La vision que l'historiographie nous a donnée il y a une vingtaine d'années de régimes qui contrôlent tout, qui sont lisses, uniformes et aujourd'hui fortement remises en question. L'ouverture des archives de cette époque en 1991 ont prouvé qu'il y avait de nombreuses failles au cœur du régime soviétique. L'État était loin de tout contrôler, de tout maîtriser. L'immensité du territoire et la complexité, la diversité des couches sociales qui composent la population rendent la maîtrise de l'ensemble impossible. C'est d'ailleurs peut-être la difficulté de la mise en place de l'idéal communiste sur une telle entité qui explique la dureté et la brutalité du régime. Quoi qu'il en soit, le cinéma n'a pas échappé à cette règle. Certes, l'État a imposé des thématiques aux grands studios. On l'a d'ailleurs vu la dernière fois avec les commandes de Prolet Kult dès les années 20 qui donnent l'orientation que doivent suivre les plus grandes productions. Le Goskino, créé en 1922, qui est un comité du cinéma, surveille l'ensemble du secteur. Mais malgré ce carcan, le cinéma russe continue d'être très politique et inventif. Nous pouvons alors nous demander si le stalinisme qui s'affirme de plus en plus dans les années 30 parvient néanmoins à s'imposer sur le 7e art. Le régime de terreur qui s'impose en URSS est-il parvenu à soumettre les grands studios et les réalisateurs soviétiques? Peut-on alors parler d'un cinéma stalinien pour cette époque?
Pour répondre à cela, nous verrons dans un premier temps comment le régime durcit sa mainmise sur le secteur dans les années 1930, notamment en homogénéisant et en centralisant la production encore plus que lors des périodes précédentes. Puis, nous nous pencherons sur le contrôle strict qui s'impose sur le cinéma en général, d'autant plus que l'approche de la Seconde Guerre mondiale justifie une surveillance absolue et que les demandes des services de propagande se multiplient. Enfin, nous montrerons que malgré tout cela, le cinéma russe reste, malgré les contraintes, bien vivant, finalement, et bien créatif.
Encore une fois, et comme pour la précédente émission, nous nous appuyons ici sur le travail de Natacha Laurent, maître de conférence à Toulouse 2 et spécialiste de l'histoire de la Russie et de l'Union soviétique, du cinéma et du patrimoine cinématographique. Nous vous renvoyons d'ailleurs à son ouvrage sur la thématique qui nous intéresse aujourd'hui, L'œil du Kremlin, cinéma et censure en URSS sous Staline, 1928-1953, paru aux éditions Priva en 2000.
Clin d'œil à l'histoire
sur Radio Bartas 107 FM. Alors, Raphaël, nous nous étions arrêtés à la dernière émission, à l'aube de l'arrivée au pouvoir de Staline, constitué en 1928, après avoir écarté définitivement Trotsky, Kamenev et Zinoviev. Rapidement, le nouvel et unique maître du Kremlin donne un virage totalitaire, que je mets maintenant entre guillemets, vu ce que l'on en a dit en introduction, sur son régime. Comment cela se manifeste-t-il pour les arts en général et le cinéma en particulier ?
Avec Staline, on refait ce que les bolcheviks avaient déjà fait après la Révolution. On reste dans un communisme de guerre. La violence est institutionnalisée, et ce de façon pérenne. C'est la planification aussi à travers les premiers plans quinquennaux, avec des objectifs chiffrés précis. La production cinématographique est aussi concernée, et a des objectifs comme toujours très ambitieux, surtout pour les moyens qui lui sont confiés. Il faut faire X comédies, X documentaires, etc. Le réalisme socialiste devient en même temps l'étendard du stalinisme. Il concerne d'abord la littérature, qui est contrôlée par un certain Jdanov et se basant sur le prolète-culte.
Je l'ai très bien dit en intro d'ailleurs. Oui, alors, et ce Andrei Jdanov est celui que l'on connaît mieux pour sa fameuse doctrine qui a défini la ligne géopolitique anti-impérialiste de l'URSS tout au long de la guerre froide, même s'il est mort en 1948.
Oui. Tout à fait. Et d'ailleurs, c'est ce fervent stalinien, Andrei Jdanov, qui a exprimé lors du congrès littéraire pan-soviétique en 1934 sa volonté de mettre en place une mobilisation totale de la culture au service de l'État.
Bon, ça montre bien que le régime stalinien souhaitait et a essayé autant que possible d'établir un régime capable de tout contrôler, ce qui correspond finalement à la définition basique d'un État totalitaire.
Oui, et cette volonté de contrôle trouve des manifestations concrètes très rapidement. On veut le contrôle des esprits et la mainmise sur ce que les membres du parti appellent les contrôleurs des âmes, c'est-à-dire les intellectuels et les artistes. Il faut incarner dans les œuvres l'idéal communiste. Toutes les formes d'art se soumettent ainsi. Réalisme dans la forme, socialiste dans le fond. Tous les courants constructivistes, formalistes sont interdits. Ce réalisme doit s'appliquer à une société qui en plus n'en est pas encore là. Les artistes doivent donc projeter l'image réaliste d'un idéal, ce qui par définition est quasiment impossible. En plus, ces œuvres doivent être simples, accessibles tout de suite pour être comprises par les masses. On refuse donc les constructions abstraites et complexes.
Et j'imagine que cette nouvelle ligne de conduite va faire des victimes, puisque certains réalisateurs ne vont pas réussir à répondre aux nouvelles exigences de l'État.
Oui, c'est la fin de tous les mouvements d'avant-garde dont nous avions déjà pu parler la dernière fois, comme le futurisme, le formalisme ou encore le constructivisme. Or, ce sont ces mouvements qui avaient pu inspirer d'immenses réalisateurs comme Eisenstein. On abandonne ainsi ce qui avait fait la force du cinéma russe et qui avait pu donner naissance à un véritable âge d'or dans les années 1920. Dans les années 1930, le comité du cinéma interdit donc la sortie de presque une centaine de films car ils ne répondaient pas aux exigences du réalisme socialiste.
Mais du coup, si je comprends bien, on veut faire du cinéma un art qui s'adresse aux masses en fait.
Oui, exactement. Et le principal théoricien de cette idée est Boris Choumiatsky, qui devient en 1930 le président du comité du cinéma. Il écrit d'ailleurs « Le cinéma des millions » paru en 1935, où il encourage un contrôle du cinéma par l'État. Il est fasciné par le modèle américain qui inspire aussi chez lui une forme de rejet. Ça se manifeste d'ailleurs par une opposition forte à Eisenstein, parti au début des années 1930 tenter sa chance aux États-Unis. Et cette confrontation entre les deux blocs, Russie et États-Unis, existe donc déjà avant la Seconde Guerre mondiale. C'est Choumiatsky qui convainc Staline de construire un Hollywood en Ukraine sur les bords de la mer Noire. Mais ce projet ne peut pas aboutir à cause des difficultés économiques de la fin des années 1930. Par la suite, le malheureux Choumiatsky est entré en disgrâce, notamment parce qu'il était le producteur exécutif d'un immense film appelé « Le prêt de Bégin », réalisé par Eisenstein et commandé par un groupe de jeunes communistes des Komsomol. Ce film, au budget colossal pour l'époque de 2 millions de roubles, devait mettre en scène une nouvelle de Tourguenieff et vanter les mérites de la collectivisation des terres. Mais après 2 ans de tournage, entre 1935 et 1937, le tournage est brutalement arrêté par les autorités pour des erreurs, je cite, « artistiques, sociales et politiques ». Choumiatsky prit la responsabilité de ce désastre, tout en accusant Eisenstein d'avoir dilapidé l'argent public dans ce film aux orientations, selon lui, beaucoup trop bibliques et qui avait laissé de côté ce fameux réalisme socialiste. Le film est donc resté inachevé. Pire, il a été en grande partie détruit lors de la bombardement pendant la Seconde Guerre mondiale, même si nous en avons retrouvé quelques extraits, miraculeusement, dans les années 1960. À la suite de ce véritable fiasco, Choumiatsky perdit sa place à la tête du cinéma russe. Accusé l'année suivante d'espionnage, il est fusillé le 29 juillet 1938. Eisenstein, quant à lui, a eu du mal à surpasser cet échec, mais reçoit de nouvelles commandes de films dès 1938. Toujours est-il que l'arrêt du prêt de Bégin a été perçu comme une ultime attaque du régime stalinien à l'égard de l'avant-garde artistique russe.
Donc tout cela concerne la création et les thématiques imposées des films de plus en plus encadrés par l'État. Mais qu'en est-il des studios ? Parce que on l'a vu la dernière fois que de nombreuses maisons existaient et pouvaient produire des films très originaux. Je pense notamment à la Je pense notamment à la Mejra Pomme russe qui avait sorti dans les années 20 des comédies burlesques, des films d'animation, des satires, avec même des têtes d'affiches et de vraies stars du cinéma, ce qui va à l'encontre de l'idéal communiste.
En 1928, a lieu la première conférence sur le cinéma qui vise entre autres à restructurer l'outil de production cinématographique soviétique. Mais c'est à ce moment que s'opère aussi le passage au parlant, et les soviétiques sont en retard dans ce domaine. La technologie ne suit pas. Entre 1928 et 1934, on a donc un mix assez chaotique entre le muet et le parlant. Le cinéma soviétique n'est donc déjà plus en mesure de concurrencer les modèles étrangers, qu'ils soient américains ou italiens. En plus de ces handicaps techniques, l'État a ajouté donc cette refonte de la production qui a remis en cause la pérennité du cinéma. Les structures se centralisent donc à travers la construction de nouveaux studios construits dans les années 1930. 13 sont bâtis partout dans l'URSS. On en trouve au Tadjikistan, par exemple, en Ouzbékistan, en Azerbaïdjan, etc. Et c'est eux qui contrôlent l'ensemble du secteur. Mosfilm et Soyuzfilm sont les principaux studios basés à Moscou, avec Lenfilm installé à Leningrad. À eux seuls, ces trois studios produisent plus du tiers des productions. Il n'y a plus de place pour les indépendants comme Mejra Pomme russe. Ces 13 studios doivent propager le modèle soviétique, mais ceux des marges commencent rapidement à participer à l'affirmation d'identité nationale. Par exemple, au studio de Yerevan, en Arménie, on peut faire des films en arménien, ce qui va complètement à l'encontre de l'idéal stalinien.
Clin d'œil à l'histoire sur Radio Bartas 107 FM.
Alors nous l'avons un peu évoqué, sans le dire vraiment, quand on a parlé du prêt de Bégin, la question de la censure. Comment celle-ci s'applique-t-elle ? Est-ce qu'elle est constante tout au long de la période stalinienne, ou est-ce qu'elle connaît des phases de progression, ou au contraire de relâchement ?
De manière générale, et on s'en doute, la censure s'est nettement renforcée par rapport aux années 20. Mais comme tu le dis, c'est vrai qu'elle connaît des périodes différentes. Dans les années 1930, le régime accentue la découlakisation.
Alors juste entre parenthèses, pour rappel, la découlakisation est cette chasse menée à l'encontre des koulaks, ces grands propriétaires terriens qui se voient persécutés et chassés de leurs terres.
Oui, et ça correspond aussi à l'heure des grands procès staliniens, où tous les opposants, ou juste les tièdes, vis-à-vis du régime stalinien sont purgés. C'est donc dans ces années que le régime met en place un nouveau système de censure qui entre dans les studios et multiplie les contrôles des œuvres. L'État donne aux responsables du cinéma eux-mêmes une part de ce contrôle. Et finalement, c'est toute cette sorte d'autocensure qui permet que ça fonctionne. Toutes ces étapes de censure, de contrôle, entraînent un allongement de la production de films, donc une augmentation de leurs coûts et une réduction de leur nombre. Pour info, en 1951, seuls 9 films ont pu sortir dans toute l'URSS. Pendant la Seconde Guerre mondiale, une nouvelle phase s'ouvre. Le chaos entraîne un dérèglement des contrôles de l'État, donc on a, au niveau du 7e art, un retour au cinéma des années 20. On réhumanise les œuvres comme c'était le cas avant. Puis, une troisième phase, après la guerre et jusqu'à 1933. On rigidifie le système. Staline demande la création d'un comité artistique où il exige la présence d'Eisenstein, par exemple. Un ministre du cinéma chapeaute le tout. Et le comité central du PCUS gère la production du pays, de son côté, tandis que le ministère doit appliquer les consignes et le plan du comité central, tout en planifiant le nombre et le genre de films qui doivent être produits. Puis, à côté de tout ça, des comités artistiques suivent la production et la conformité idéologique des films. Ce trio institutionnel s'agglomère surtout à partir de 1938-1939 et tient en tenaille tout le cinéma soviétique.
Alors, si on peut s'attarder sur ces comédies artistiques, tu viens de nous dire qu'Eisenstein pouvait en faire partie. Est-ce que sa présence n'a pas permis d'assouplir un peu la censure ?
En fait, c'est plutôt le contraire qui se passe. L'intégration forcée des professionnels du cinéma comme Eisenstein rend paradoxalement particulièrement efficace ce contrôle. Dans ces comités artistiques, on trouve, outre des réalisateurs ou des producteurs, ceux qui sont des représentants du régime, deux fonctionnaires du NKVD qui n'ont absolument rien à voir avec le cinéma. Et face à ces deux, on peut trouver différentes attitudes de la part des gens du cinéma. On a par exemple ceux qui essaient de faire des compromis, de faire avec, de se protéger tout en essayant de faire avancer d'autres projets. Certains sont donc très ambivalents et jouent en double jeu. Il y a ceux qui ne font rien Et c'est l'attitude qu'a adoptée Eisenstein. Quand on parle de ses films, par exemple, il s'en va, il sort de la pièce. Il n'y a jamais de confrontation lors de ses réunions. Ce profil bas peut être mis sur le compte du fait qu'il marche un peu sur des œufs. Malgré tous ses succès et toutes les récompenses qu'il a accumulées, il a aussi des casseroles qu'on a déjà évoquées, le prix de Beijing par exemple, ou son voyage en Amérique. Cela fait qu'il pourrait rapidement se retrouver dans un tribunal assis sur un siège éjectable qui pourrait l'expédier directement sur un goulag. Enfin, on a aussi des éloquents qui parviennent à suggérer des changements lors des conseils artistiques et qui protègent des créateurs. Après 1945 et 1946, cependant, les militaires prennent les devants lors de ces conseils artistiques et écartent peu à peu l'ensemble des professionnels du cinéma.
Le tableau est bien noir. Est-ce que ce cinéma parvient tout de même à sortir de temps en temps de bons films qui satisfont et l'État et le public ?
Comme on l'a dit, le champ des possibles est considérablement restreint. Seul le genre historique, les épopées révolutionnaires et les sujets contemporains sur la société soviétique, mettant en avant par exemple la collectivisation, l'homme nouveau ou l'industrialisation sont tolérés. Ce dernier thème est le plus exigeant et souvent les autorités sont peu satisfaites de ces productions, car la volonté de faire du réalisme socialiste n'est pas compatible avec les objectifs des propagandistes. Eisenstein ne fait donc que des films historiques, comme Ivan le Terrible par exemple, qui sort en 1944 pour sa version en noir et blanc. Cette période stalinienne est marquée par un certain nombre de comédies musicales aussi qui sont restées célèbres. La première est « Joyeux garçon » de Grigori Alexandrov, sorti en 1934, au moment où on commence à maîtriser le son. Mais cinématographiquement, c'est pas génial, notamment à cause du manque de moyens. Les chansons sont en revanche très populaires et mélangent des styles très différents comme le jazz par exemple et met en scène de nombreux prolétaires.
Как много девушек хороших, как много ласковых имен. Но лишь одно из них тревожит, унося покой и сон. Когда влюблен, любовь нечаянно нагрянет, когда ее совсем не ждет. И каждый вечер сразу станет удивительно хорош, и ты поешь, ах, сердце. Тебе не хочется покоя, сердце, как хорошо на свете жить. Сердце, как хорошо, что ты такое. Спасибо, сердце, что ты умеешь так любить. Не хочется покоя, сердце, так хорошо на свете жить, сердце, как хорошо, что ты такое. Спасибо, сердце, что ты умеешь так.
Clin d'œil à l'histoire sur Radio Bartas 107 FM.
On vient d'écouter un extrait du film Les Joyeux Garçons. La chanson c'est Mon cœur, tu n'as pas de repos, chantée par Leonid Utiosov. Alors ces films sont donc des succès, mais est-ce qu'ils sont vus par les habitants?
Oui, parce que les autorités veulent diffuser à tous ces films. C'est ce qu'ils appellent la cinéfication. Le cinéma doit être partout. Et pour le coup, le régime est ici très ambitieux, surtout dans les régions les plus éloignées. Des salles itinérantes sont construites, des projectionnistes ambulants vont très loin et permettent aux soviétiques de beaucoup aller au cinéma. De grandes salles sont bâties, on en a par exemple de plus de 1000 places. On y met du velours, du marbre, des halles prestigieuses et accessibles pour célébrer l'art du peuple. De grosses promotions via les journaux, les affiches, les syndicats ont lieu. Les films musicaux ont du succès et pendant la guerre, ce qu'ils appellent la Grande Guerre Patriotique, comme on a appelé en URSS la Seconde Guerre Mondiale, nécessite une mobilisation de tous et le cinéma est très important pour cela. Il est d'ailleurs considéré comme une industrie stratégique pour les autorités, surtout depuis juin 1941 et le début de l'invasion allemande. Pour preuve, quand les Soviétiques élaborent des programmes d'évacuation des potentiels des régions menacées par la guerre, le cinéma fait partie des premiers outils à déplacer. Les grands studios sont envoyés vers le sud, très loin du front. Le ministère du cinéma est envoyé en Sibérie ou au Kazakhstan. L'étau autour du cinéma se desserre un peu grâce à la distance et on a un léger renouveau du cinéma soviétique pendant la guerre. Mais la propagande se poursuit.
Alors, cet art du peuple tel que les soviétiques l'appelaient a-t-il eu un effet sur la pratique des citoyens ? Est-ce qu'en fait ces films souvent corsetés sont véritablement appréciés par les habitants ?
C'est difficile à dire. Néanmoins, une partie de la réponse nous apparaît avec des films trophées, c'est-à-dire une série de films étrangers récupérés par les Russes lors de la prise de Berlin en 1945. Ces films ont été rapatriés en URSS et sont diffusés en 1946 parce que les soviétiques n'ont plus rien à montrer à cause de la censure. Or, ces films étrangers, les films nazis pour certains, rencontrent un immense succès, bien plus que les films soviétiques. Pour répondre à ce désaveu et réaliser le film Le Serment mettant en scène Staline comme étant le petit père des peuples. C'est un modèle du film stalinien. On y retrouve Mikhaïl Guelovany, qui est l'acteur officiel pour incarner Staline. Mais ce film est un échec commercial total et ne tient pas la mesure face à une comédie musicale nazie.
Donc le succès n'est pas vraiment là pour le cinéma russe. Qu'en est-il à l'étranger ?
Ils n'ont pas accès aux circuits commerciaux anglais, français ou britannique. Mais dès qu'on leur propose de participer au Festival de Venise ou à la première édition du Festival de Cannes, qui a été annulé d'ailleurs en 1939, ils sautent sur l'occasion et en profitent pour présenter la grandeur de l'URSS. C'est pas moins de 8 films qu'ils inscrivent à Cannes en 1939. Seuls les Français et les États-Unis en avaient inscrit davantage.
Attends, j'ai pas compris. La première édition du Festival de Cannes, elle a été annulée ?
Oui. À cause de la guerre, parce que la guerre a commencé et du coup
ils ont présenté
les films. Non, ils n'ont pas présenté les films, mais on a quand même retrouvé la liste des films qui étaient proposés.
Bon, est-ce que tu peux donc nous citer des bons films qui sont sortis durant cette période stalinienne ?
Mais on peut en recommander deux qui sont restés dans l'histoire et qui sont encore une fois réalisés par toujours le même homme, Sergei Eisenstein. Le premier est une commande qui met en scène Alexandre Nevski, un héros orthodoxe au XIIIe siècle qui a repoussé les Teutons, c'est-à-dire les Allemands, d'où l'objet de la commande qui a eu lieu en 1938, à la veille du début de la Seconde Guerre mondiale. Le film est fait au terme d'une commande spéciale de Staline qui vient de sauver Eisenstein d'une purge.
Et oui, puisque nous sommes juste après le prêt de Bedjin. C'est donc cette purge-là qui a été fatale à Boris Choumiatsky, l'antagoniste d'Eisenstein, sur ce projet désastreux. Bon, ça montre bien que ce dernier a eu chaud et ça explique la discrétion lors des comités artistiques, Raphaël.
Oui, exactement. Pour en revenir à Alexandre Nevski, Staline est content du résultat. Eisenstein se sert de la musique de Prokofiev pour ne pas s'ennuyer et se renouveler. C'est une espèce de chef-d'œuvre pour son premier film parlant. Il met en avant le patriotisme et le danger que peut représenter la Russie quand elle est face à ses ennemis. C'est pour lui un retour à la production, c'est la reconnaissance de l'État et un véritable succès commercial. Il a donc retrouvé un petit peu de crédit au cœur du régime et peut se lancer dans une deuxième grande production que nous avons déjà évoquée, le film Ivan le Terrible, qui est une super production sortie en 1946. Staline lui demande de se servir de ce personnage pour glorifier sa personne. Cet immense film est réalisé à Almaty, au Kazakhstan, où d'énormes moyens sont mobilisés. Le film est en deux parties. La première, en 1944, est un immense succès. Mais le second volet est interdit, car Eisenstein montre comment ce tsar solaire tombe dans la violence et la brutalité, accompagné d'une bande de, entre guillemets, dégénérés. Tout le monde a immédiatement pensé à Staline en voyant ce second volet d'Ivan le Terrible. Eisenstein est exclu de Mosfilm et meurt abandonné de tous en 1948. En 1958, le film ressort et il est salué comme un immense chef-d'œuvre, non seulement en URSS, mais aussi au-delà. Ce film permet d'ailleurs de montrer la bonne foi de l'URSS de Khrouchtchev, qui prouve alors que l'État soviétique se déstalinise.
Mystery wrapped in an enigma, as Russia has been called, is shown... Le mystère enveloppé dans une énigme, comme on l'appelle en Russie. Ce n'est que majestés et grandeurs dans Ivan le Terrible. L'œuvre monumentale de Sergei Eisenstein avait d'abord été interdite jusqu'à récemment. Maintenant, nous pouvons montrer le film dans la version complète imaginée par le réalisateur. Ivan le Terrible a poursuivi son rêve. Une Russie libérée de l'esclavage, des boyards égoïstes. Une Russie unie et assez forte pour résister aux traîtres de l'intérieur et aux ennemis de l'extérieur.
The grandiose settings, the raging intrigues, the fierce battles.
Des décors grandioses, les intrigues déchaînées, les batailles acharnées forment une trame de fond du drame qu'Eisenstein a façonné avec une puissance rarement rencontrée. La musique de l'opéra de Prokofiev ajoute de la profondeur et de la portée au film qui a été qualifié d'événement cinématographique.
Clin d'œil à l'histoire sur Radio Bartas 107 FM.
Finalement, même le grand Eisenstein a été victime de ce contrôle du cinéma, mais on voit néanmoins que ce régime totalitaire n'a au final jamais réussi à complètement prendre le contrôle de la production cinématographique soviétique. Malgré la centralisation de la production, la mise en place de la censure, notamment via des comités artistiques, le système a toujours connu des failles qui ont vu des films sortir malgré tout, et Ivan le Terrible de Eisenstein en est un symbole. En revanche, toutes ces ingérences ont lourdement handicapé la progression du cinéma russe, tant dans la quantité de films produits que par leur créativité.
Ce que l'on voit aussi, c'est que le peuple, friand de cinéma car il représente l'un des seuls échappatoires pour cette population privée de tout, n'adhère pas au final à l'idéal voulu par le PCUS de Staline, comme le prouve l'échec des quelques films staliniens comme Le Serment, réalisé par Mikhail Tchiorelli. Cela remet encore une fois en lumière l'idée que l'État totalitaire n'existe pas. Que ce soit par de la résistance passive ou active, par une désobéissance volontaire ou feinte, l'art, par sa diversité et sa subjectivité, offre de possibles moyens d'évasion aux populations, y compris dans des états-prisons tels que l'URSS du cœur du XXe siècle. Mais n'est-ce pas encore le cas aujourd'hui, dans les pays les plus aux marges du monde ?
C'était Clin d'œil à l'histoire, épisode 16, cinéma et politique en URSS, deuxième partie 1928-1953. Vous pouvez retrouver tous les extraits que nous avons diffusés gratuitement sur YouTube et des films d'Eisenstein en intégralité sur cette même plateforme. Clin d'œil à l'histoire, une émission préparée et présentée par Raphaël
et Ben
sur Radio Bartas 107 FM.